Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 12 Aban 1401 du calendrier iranien, 3 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran démystifie la rhétorique des médias occidentaux sur une possible attaque contre l'Arabie Saoudite. L'Iran sanctionne 8 responsables et une entité canadienne pour le soutien au terrorisme. Téhéran a proposé des points de vue constructifs sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 aux États-Unis. Et l'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan, dans un état stable, après une tentative d'assassinat. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a imposé des sanctions à 8 responsables et une institution canadienne en raison de leur soutien aux terroristes anti-iraniens. Dans un communiqué publié mercredi 2 novembre, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé avoir imposé des sanctions à 8 personnes et à une entité canadienne pour leur soutien au groupuscule terroriste anti-iranien de l'organisation des Moudjahedine Khalq, OMK, et l'incitation au terrorisme et à la violence contre le peuple iranien. Plus de 17 000 Iraniens, dont des civils, ont été tués par l'OMK dans différents actes de terrorisme, notamment des attentats à la bombe dans les lieux publics et des assassinats ciblés menés au cours des années suivantes la victoire de la révolution islamique de 1979. Les individus et entités ciblées ont également été reconnus responsables d'avoir encouragé des activités terroristes et des actes de violence contre le peuple iranien, d'avoir diffusé de fausses informations sur la République islamique d'Iran et d'avoir contribué à l'application des sanctions oppressives contre la nation iranienne. L'Iran se dit une fois de plus déterminé à parvenir à un bon accord solide et durable pour relancer l'accord de 2015. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique mercredi avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell. La République islamique d'Iran est prête pour la conclusion d'un accord bon, fort et durable, a-t-il déclaré à son interlocuteur. Le haut diplomate iranien a déclaré que l'Iran avait fait part, à la partie américaine de ses points de vue qui sont basés sur une approche constructive et tournée vers l'avenir. Amir Abdollahian a ajouté que l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont également parvenus à un accord pour donner suite à une coopération étroite. Pour sa part, Josep Borrell a déclaré que l'Union européenne poursuivrait ses efforts constructifs jusqu'à ce qu'un accord final sur la relance de l'accord nucléaire soit atteint. Il a également salué l'accord entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la poursuite de leur coopération. L'Iran entend poursuivre une politique de bon voisinage avec les pays de la région, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Il réagissait à un article du Wall Street Journal affirmant que les services de renseignement saoudiens prétendaient découvrir que Téhéran préparait des attaques en Arabie saoudite et en Irak. La République islamique d'Iran, dont la politique est fondée sur le respect mutuel et sur les principes internationaux, poursuit sa politique de bon voisinage avec les pays de la région, a déclaré M. Kanani aux journalistes. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan était dans un état stable après avoir été blessé par balle à un pied jeudi en marge d'un rassemblement politique dans ce que le président du pays a qualifié d'odieuse tentative d'assassinat. Renversé en avril par une motion de censure, Imran Khan a pris depuis vendredi la tête d'une longue marche sur la capitale Islamabad pour obtenir la tenue d'élections anticipées. L'ancien champion de cricket a été blessé quand des coups de feu ont éclaté dans la foule, a indiqué à l'agence France Presse l'un de ses proches conseillers, Raouf Hassan. Imran Khan a été blessé au pied. Il est dans un état stable, a-t-il déclaré, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de le tuer, de l'assassiner. Un assaillant a été abattu et un autre appréhendé par la police, a précisé M. Hassan. Dans un tweet, le président pakistanais Arif Alvi a dénoncé une odieuse tentative d'assassinat. Le Pakistan est aux prises depuis des décennies avec des mouvements islamistes violents qui contestent l'influence du pouvoir central et les assassinats politiques ont émaillé l'histoire du pays. Nouvelle attaque meurtrière en Cisjordanie occupée où les forces israéliennes ont tué un autre jeune Palestinien il y a quelques heures. L'armée israélienne affirme que ses forces ont abattu Badr Amer, 20 ans, à Qods, alléguant qu'il avait attaqué un groupe d'officiers israéliens avec un couteau. Les médias israéliens rapportent que 3 officiers ont été légèrement blessés lors de l'attaque au couteau. Séparément, des soldats israéliens ont abattu un homme de 42 ans, identifié comme étant Mahmoud Rayan, et cela s'est passé au lendemain d'un assaut israélien dans le village de Beit Darou, au nord-ouest de Qods occupé. Israël a récemment resserré l'étau mortel autour de la Cisjordanie occupée et élargi sa répression contre les Palestiniens. Et enfin, en Turquie, le taux d'inflation a atteint un niveau record en près d'un demi-siècle. Selon les données officielles, le taux d'inflation annuel de la Turquie a dépassé 85% en octobre, son plus haut niveau depuis 1997. Cela survient alors que la Banque centrale turque a abaissé ses taux d'intérêt. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, les taux d'intérêt élevés sont à l'origine de l'inflation. À rebours des théories économiques classiques, le président Erdogan affirme que les taux d'intérêt élevés favorise l'inflation. Le chef de l'État turc, qui dit privilégier la croissance et les exportations à la stabilité des prix, promet régulièrement que la Turquie surmontera le problème de l'inflation après le nouvel an. Mercredi, le président Erdogan s'est même félicité de la bonne santé de l'économie de son pays. La diffusion des nouvelles infondées par le Wall Street Journal, selon lesquelles la République islamique d'Iran envisagerait d'attaquer des cibles en Arabie saoudite, s'inscrit dans le cadre des tentatives désespérées de l'administration américaine de lancer une campagne de propagande contre l'Iran. Bien que l'Arabie saoudite se soit abstenue au cours des 50 derniers jours, d'adopter une position négative envers les développements internes en Iran dans les médias, son implication dans les récentes émeutes dans le pays ne fait aucun doute, aussi bien que l'opinion publique que pour les experts, a écrit l'agence de presse Nour News dans un rapport publié le mercredi 2 novembre. Le journal américain The Wall Street Journal a prétendu mardi 1er novembre que l'Arabie saoudite avait échangé des renseignements avec les États-Unis, alertant sur une attaque imminente de la République islamique d'Iran contre les cibles dans le royaume saoudien. Sur la base de cette information erronée, l'armée américaine et les forces alliées dans les pays du Golfe Persique, ont relevé le niveau d'alerte, affirme le Wall Street Journal, alors que les autorités saoudiennes n'ont jusqu'à présent fait aucun commentaire en la matière. Lors d'une conférence de presse, en réponse à une question de savoir si les ressortissants américains avaient été informés de la menace d'une prétendue attaque imminente contre l'Arabie saoudite, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré qu'il n'était au courant d'aucun avertissement consulaire. Par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'Iran a catégoriquement rejeté le rapport du Wall Street Journal sur les menaces de l'Iran contre l'Arabie saoudite, le qualifiant de biaisé et comme faisant partie d'une guerre psychologique contre la République islamique d'Iran. Ces reportages biaisés sont concoctés par certains médias occidentaux et sionistes dans le but d'empoisonner l'atmosphère contre la République islamique d'Iran et de contrer les tendances positives actuelles des relations croissantes avec les pays de la région, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué publié mercredi soir. La République islamique d'Iran poursuit la politique de bon voisinage avec ses voisins sur la base du respect mutuel et dans le cadre des principes et règles internationaux, a-t-il souligné. Le haut diplomate iranien a en outre noté que l'Iran estime que la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région est possible grâce à l'établissement d'une interaction constructive avec les voisins, ajoutant que la République islamique d'Iran suivra cette politique avec sérieux. En effet, le rapport du Wall Street Journal intervient à un moment où les groupes terroristes parrainés par l'Arabie saoudite et certains États occidentaux ont dégénéré les manifestations après le décès de la jeune iranienne Mahsa Amini, en violence et en émeute dans certaines villes iraniennes, provoquant ainsi des pertes matérielles et humaines regrettables. L'Iran, comme tous les pays, se réserve le droit de recourir à des mesures punitives pour répondre à toute hostilité mettant en danger la sécurité et les intérêts nationaux. L'expérience a prouvé que l'application de toute méthode autre que le respect et l'observation des principes reconnus dans les relations de bon voisinage et les relations internationales avec la République islamique d'Iran ne portera certainement aucun fruit autre que du mal pour l'autre partie, a indiqué Nour News, notant que le Wall Street Journal n'a jusqu'à présent fourni aucune preuve à l'appui de son allégation.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat. En effet, à l'occasion de l'ouverture du 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, qui a commencé ses travaux ce mardi 1er novembre en Algérie, donc, le Yémen, mais plus précisément le mouvement yéménite Ansar Allah, a demandé aux pays membres de réagir face à la continuité de l'agression militaire saoudienne contre ce pays et de mettre fin à cette agression militaire. C'était en mars 2015 que l'Arabie saoudite, en coopération et en soutien militaire de ses alliés occidentaux, donc les pays occidentaux, mais également les États-Unis et les Émirats arabes unis, a débuté cette campagne d'agression militaire, mais également cette campagne d'agression multidimensionnelle, économique, sociale, contre le Yémen. Une agression qui se poursuit malgré les maintes tentatives de plusieurs pays de jouer le médiateur et de mettre fin à cette agression militaire. Alors, qu'en sera-t-il des résultats de ce sommet? On en saura plus avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
À l'occasion de l'ouverture du 31e sommet de la Ligue arabe à Alger ce mardi 1er novembre, le mouvement yéménite Ansar Allah a appelé les pays membres à entrer en action pour mettre un terme à l'agression au blocus imposé au Yémen. Cité par l'agence de presse yéménite Sabah, Mehdi Al-Mashat, chef du Conseil politique suprême d'Ansar Allah, a déclaré que le Yémen s'attend à ce que l'Algérie et les dirigeants de la Ligue arabe soutiennent aux côtés du peuple yéménite et de son droit légitime de mettre fin à 8 ans d'agression et de lever le blocus jusqu'à ce que le Yémen retrouve sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et ce en nettoyant son territoire de la présence des occupants étrangers. Dans une lettre s'adressant au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution algérienne, Al-Mashat a écrit « Le Yémen exige une compensation pour toutes les pertes qu'il a subies au cours des 8 dernières années. Nous attendons du sommet arabe en Algérie qu'il aide les Yéménites à cristalliser des solutions nationales sans aucune tutelle ni ingérence. » Plus loin dans ce propos, le chef du Conseil politique suprême d'Ansar Allah a appelé la Ligue arabe à se positionner du côté du peuple palestinien et à trouver des solutions à d'autres questions du monde arabe loin des ingérences étrangères. Cela intervient alors que les ressources et la richesse nationale yéménite ne cessent d'attiser les convoitises des forces d'occupation présentes dans le pays. Dans ce contexte, le membre du bureau politique d'Ansar Allah, Ali Al-Kahoum, a déclaré dimanche 30 octobre aux journalistes Notre patience face au pillage des richesses et des ressources du Yémen a des limites et ne durera pas longtemps. Nos armes stratégiques et dissuasives ont changé les équations sur le terrain.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et donc en direct avec nos deux invités qui sont avec nous par Skype. Tous deux analystes politiques, tous deux sont par Skype depuis Paris, la capitale française. Donc je vous dis bonjour d'abord, Monsieur Habib Tawa, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Dans un premier temps, avant d'évoquer ce sommet, ce 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, Monsieur Tawa, dans un premier temps, comment interprétez-vous ces presque 7 ans d'agression militaire contre le Yémen par l'Arabie saoudite et sa coalition d'intervention militaire?
Malheureusement, depuis la création de la Ligue arabe, ce lieu a été le lieu de confrontation de tendances rivales. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des tendances encore plus presque ennemies, dirais-je, se retrouvent. À partir du moment où Israël s'est fait reconnaître par un certain nombre de pays arabes, évidemment, il y a une radicalisation des positions, en particulier la guerre qui se déroule dans le Sahara occidental provoque des tensions entre le Maroc et l'Algérie, et le Maroc s'appuyant sur Israël, l'Algérie étant du côté opposé, déjà voilà une raison d'opposition très grave. De surcroît, le fait que l'Algérie soit la puissance accueillante de ce sommet complique d'autant plus la situation qu'elle est partie prenante dans cette histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour noyer le poisson, on a introduit aussi des accusations contre le Yémen, en prétendant évidemment que le gouvernement qui est assujetti à la politique saoudienne serait le véritable représentant de l'État yéménite. Donc nous nous trouvons dans une situation qui est assez compliquée et qui fait que malheureusement, les Arabes aujourd'hui sont partagés entre des allégeances à Israël et une volonté de résistance. Laquelle résistance est incarnée dans le cas d'espèce par le peuple yéménite autour de Sanaa.
Bien sûr. Merci pour vos explications. Restez en ligne. Nous sommes également par Skype, en ligne, en direct, depuis Paris également, avec Imadeddine Amrouni, analyste politique. Bonjour Monsieur Amrouni, merci d'avoir accordé votre temps à ce débat après STV français. Alors vous, j'aimerais avoir votre analyse également sur la situation actuelle au Yémen et cette agression militaire qui continue depuis 7 ans.
Bonjour à vous et à votre invité. La guerre contre le Yémen, c'est une guerre injuste, bien sûr, mais surtout qui s'inscrit dans la stratégie des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Parce qu'il ne faut pas prendre les États arabes ou les gouvernants arabes comme des gouvernants indépendants et puissants. Il n'y a pas en fait un monde arabe. Peut-être dans la géographie, il y a un monde arabe, mais dans la réalité, c'est comme, vous savez, c'est comme les Blancs lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Nord et ils ont écrasé, c'est-à-dire les indigènes, les Indiens de l'époque, et ils les ont mis dans des réserves. C'est exactement avec les Arabes, après ce qu'on appelle la colonisation, et même après ce qu'on appelle l'indépendance. Donc, toutes les guerres qu'on a vues, que ce soit les guerres civiles, que ce soit des guerres entre pays, elles sont dirigées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Occident. Et donc, le problème, ce n'est pas entre l'Arabie saoudite et le peuple yéménite. Le problème, c'est que le Yémen, il veut être indépendant, il veut gérer ses ressources humaines et ses ressources naturelles, il veut avoir un régime républicain, et donc, ça nuit, si vous voulez, aux intérêts américains et britanniques dans la région. Et cette guerre, qui dure depuis 8 ans maintenant, elle est dirigée vraiment contre le peuple yéménite pour diviser le Yémen en 3 parties. Parce qu'il faut voir le niveau stratégique, il ne faut pas simplement analyser le réel qu'on le voit depuis 8 ans. Au niveau stratégique, les États-Unis, la Grande-Bretagne veulent diviser le Yémen en trois États et même veulent diviser l'Arabie Saoudite en trois États. Et donc, une guerre puissante entre l'Arabie Saoudite et le Yémen aidera les États-Unis et la Grande-Bretagne à maintenir leur puissance sur le monde au niveau énergétique et au niveau économique et au niveau politique. Donc, la Ligue du monde arabe, comme votre invité vient bien de le dire, elle ne sert à rien depuis sa création. C'est qui a créé la Ligue arabe ? C'est les Britanniques. Et donc, aujourd'hui, avec le changement en géopolitique, il y a un autre monde qui va sortir de l'affrontement entre, d'une part, la Chine, la Russie, l'Iran, et peut-être après l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Donc, on a un autre monde qui se met en route. Et donc, toutes les organisations qu'on a vues, comme l'ONU, comme la Ligue arabe, comme d'autres organisations, ils vont disparaître. Alors, moi, je pose la question, est-ce que la réunion de la Ligue arabe à Alger sera la dernière, par exemple? Parce que, comme bien dit votre invité, elle est divisée entre ceux qui ont normalisé avec l'ennemi sioniste et ceux qui essayent de résister. Et donc, on voit même la non-présence de certains chefs d'État et certains émirs et certains rois. Il y a à peu près 11 ou 12 présidents ou rois qui ne sont pas, je dis rois ou émirs, parce que la plupart, ils ne sont pas des républiques. Et la guerre au Yémen, c'est une guerre régionale avec l'appui puissant des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et donc, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, Mohammed bin Salman, il veut accéder au trône. Et donc, la guerre contre le Yémen, il pense, bien sûr, il pense qu'elle va le servir, surtout dans cette période où les Américains ont besoin des Saoudiens et les Russes ont besoin des Saoudiens. Et donc, on est vraiment dans une situation très compliquée. Et aucun pays arabe, même l'Algérie, ne peut pas interposer entre l'Arabie Saoudite et le Yémen pour arrêter cette guerre. Parce que les relations, les intérêts entre États, eh ben, elles priment. Et donc, le peuple yéménite, il n'a pas le choix qu'à résister, malheureusement ou heureusement. On verra plus tard.
Merci pour vos explications. Monsieur Tawa, Monsieur Amrouni vient d'évoquer une question. Est-ce que cette réunion de la Ligue arabe sera la dernière en ce qui concerne la question yéménite? À votre avis, je sais bien que vous n'êtes pas très optimiste, vous l'avez bien évoqué, mais est-ce qu'il y a quand même des points positifs dans cette réunion, dans ce sommet? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à de bons résultats, des résultats positifs en ce qui concerne cette agression contre le Yémen?
D'abord, je remercie l'excellent exposé de M. Amrouni qui a mis les choses dans une perspective que j'accepte parfaitement.
Oui.
Et pour répondre à votre question, est-ce que ce sera la dernière fois ou l'avant-dernière fois? Ça dépend beaucoup de la situation sur le terrain.
Mm-hmm.
Ça ne dépend pas seulement du fait qu'ils vont s'entendre ou ne vont pas s'entendre. Il ne faut pas oublier que déjà, il y a eu une réunion de la Ligue arabe il y a quelques années, avant la mort de Kadhafi, où Kadhafi était monté à la tribune et il a dit: vous tous qui êtes ici, votre tour va arriver. Et effectivement, il y avait devant lui Moubarak, et il y avait devant lui je ne sais plus quel autre chef d'État, avec les Tunisiens, et tous ces gens ont sauté.
Oui.
Et Kadhafi a sauté avec eux. Et donc, effectivement, c'est un forum où on parle, ce n'est pas nécessairement un lieu où on décide. D'ailleurs, je le rappelle, à titre de rappel historique, que la réunion de la Ligue arabe qui s'est passée, je crois, en 65 au Maroc, avait été, tous les enregistrements des chefs d'état-major avaient été fournis à Israël par les services marocains. Donc, ces réunions-là sont beaucoup des shows médiatiques, beaucoup plus que des réunions qui ont un intérêt objectif. Ce qui est important, c'est sur le terrain. Sur le terrain, Ansarullah a prouvé de façon indiscutable le fait qu'il est incontournable. Et aujourd'hui, quand il fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des menaces sur le fait de voler le pétrole et les ressources du sud du Yémen, de la région de Hadramaut, contre les gens qui viennent le pomper, il est clair qu'il dit quelque chose qu'il peut faire et qu'il fera au besoin. Donc, le problème, c'est qu'on va bavarder en Algérie. Chacun va essayer de se positionner, mais tout compte fait, Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est une déclaration qui a été faite par Abdelbari Atwan, l'ancien patron de Kots al-Arabi, le journal londonien en langue arabe, où il disait « Le prochain membre de la Ligue arabe sera l'État d'Israël ». Et ça, c'est une situation qui est très grave et qui met en menace le monde arabe dans son ensemble. Aujourd'hui, autour d'Israël, il y a une coalition de puissances pétrolières qui le soutiennent, qui s'entendent avec lui, l'Arabie saoudite, les Émirats, probablement Qatar, l'Égypte. Et tout ce monde-là est rassemblé autour d'une politique qui fait d'Israël un pôle finalement pétrolier et gazier. Ça, c'est très inquiétant. Et dans cette mesure, on peut considérer que la lutte des Yéménites est une lutte pour empêcher la réussite d'un tel projet. Parce que les Israéliens voudraient, dans un second stade, devenir la puissance qui contrôle tous ces pays. Et le fait même qu'ils aillent jusqu'au Maroc, où ils ont vendu des armes, où le chef d'état-major israélien a été, renforce encore plus ce projet d'une ligue arabe qui deviendra une ligue israélienne. Et il y a une plaisanterie qui court parfois dans le monde arabe. Au lieu de dire, je vous dis le mot en arabe, al-lagna al-arabiya, on va dire al-lagna al-ibriya, la ligue israélienne plutôt que la ligue arabe. Ça, c'est un danger qui court et qui pend au nez de la ligue arabe. Je suis très pessimiste.
Merci à vous. Restez en ligne, Monsieur Tawa. Alors, Monsieur Amrouni, Habib Tawa vient de relever un point très important. Donc, l'influence d'Israël, du régime sioniste, au sein de cette ligue, au sein de certains pays arabes pétrolifères, et donc plusieurs pays arabes qui, surtout durant ces dernières années, ont pris même un pas vers la normalisation avec Israël. Est-ce qu'avec ce lobby sioniste, quand on voit son influence partout, hein, non seulement dans cette ligue arabe, est-ce qu'il y aura des espoirs d'arriver à une fin de cette agression saoudienne contre le Yémen et cette déstabilisation perpétrée par l'Arabie saoudite et ses alliés contre ce pays, le Golfe Persique?
Bien sûr, il y aura toujours un espoir. D'abord, le peuple yéménite, il résiste. Et le peuple yéménite, il a les moyens humains, les moyens technologiques et les moyens stratégiques à peser lourd dans la guerre contre l'impérialisme américain. Parce qu'en face, les Yéménites ne combattent pas l'Arabie saoudite, ils combattent les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il faut se mettre toujours, on n'est pas contre l'Arabie saoudite ou l'Arabie saoudite n'est pas contre le Yémen. Ceux qui dirigent les guerres, c'est les puissants, ceux qui ont les armes, ceux qui donnent les armes, ceux qui financent et ceux qui fabriquent les armes et ceux qui financent et ceux qui mettent les stratégies dans le monde, c'est l'Occident. Donc, aujourd'hui, on a un rebelle qui s'appelle M. Poutine. Il se rebelle et il a les moyens de se rebeller. Et il y a la Chine qui essaye, avec beaucoup de moyens économiques et financiers et aussi militaires, à résister et peut-être à un moment donné à rentrer en guerre contre les États-Unis. Mais aujourd'hui, elle n'a pas tous les moyens. Les Arabes et surtout les Yéménites, là où il y a les guerres, en fait, le Yémen, l'Irak, la Syrie, on peut intégrer aussi l'Iran qui se défend, qu'elle a les moyens de se défendre, mais on essaye de venir à l'intérieur même de la population iranienne pour influencer donc le peuple iranien à changer de régime. La guerre au Yémen, elle se retrouve au centre de tout ce changement entre deux pôles, comme j'ai dit tout à l'heure, la Russie, la Chine, la République islamique d'Iran et les États-Unis, la Grande-Bretagne et les monarchies arabes. Donc, on a l'espoir que peut-être avec un changement stratégique dans la guerre, je veux dire quoi stratégique? C'est-à-dire que les Yéménites vont utiliser des armes stratégiques. Ils ne vont plus utiliser des drones ou des missiles, ils vont utiliser d'autres moyens plus stratégiques et ils vont frapper peut-être des bases militaires britanniques ou américaines. C'est-à-dire qu'on va changer la nature de la guerre. Et un, deux, lorsque peut-être Mohammed bin Salman il arrive au trône, c'est-à-dire il devient roi. Et là, il y a un problème, parce qu'il y a une partie des États-Unis, des Américains, de l'établissement américain, ils ne veulent pas que Mohammed bin Salman soit roi. Et c'est pour cette raison on voit la politique énergétique de l'Arabie saoudite qui ne veut pas suivre les dictats de M. Biden. Donc, la question yéménite, elle est en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de l'Arabie saoudite, ce qui se passe à l'intérieur même des États-Unis, peut-être à l'intérieur même des États-Unis dans quelques mois, dans quelques années, on aura la guerre civile à l'intérieur même des États-Unis. Donc, tout changement dans la puissance américaine, l'affaiblissement de la puissance américaine, aide à la victoire du peuple yéménite.
Merci pour vos explications. Reste en ligne. Monsieur Tawa, nous avons évoqué l'influence du lobby sioniste au sein de la Ligue arabe et donc des coalitions, la coalition saoudienne et l'influence des États-Unis et d'Israël. Mais d'un autre côté, donc de l'autre côté, que peuvent faire les alliés du Yémen et de l'axe de la résistance dans la région pour mettre un terme à cette agression militaire ?
Les alliés du Yémen sont en position malheureusement défensive. Je vous rappelle que puisqu'on parlait de la Ligue arabe, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que la Syrie a été exclue au début de la guerre civile de la Ligue arabe. Et jusqu'à aujourd'hui, ce pays n'a pas été réintégré. Or, c'est l'un des soutiens de cette politique de résistance au Proche-Orient. Donc, effectivement, il faudrait déjà réintégrer la Syrie dans le jeu des États de la Ligue arabe, même si, comme le dit très bien votre intervenant, cette Ligue arabe représente des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux des peuples arabes. Mais néanmoins, ce serait symbolique que de ramener déjà la Syrie dans la Ligue arabe. Et le combat que mènent les Yéménites, en conjonction souvent, on le dit rarement, mais c'est un fait, ça a été déclaré par Hassan Nasrallah, avec la politique du Hezbollah au Liban contre Israël, est un système qui est coordonné avec l'aide morale et peut-être matérielle de l'Iran, avec aussi l'appui de courants particuliers en Irak. Tout ça sont des forces qui, en conjonction, soutiennent la lutte du peuple yéménite. Mais il faut reconnaître que, historiquement, il ne faut jamais oublier cet aspect des choses, historiquement, le Yémen est un pays irréductible. Les Turcs ont été chassés, les Égyptiens en 62 et dans les années jusqu'à 67 ont été obligés de quitter la côte basse. Le Yémen est un pays irréductible. Et je pense que Mohammed Ben Salman, quand il a lancé la guerre contre le Yémen, croyait qu'il était le patron d'un jeu vidéo, parce qu'à l'époque, il était ministre de la Défense. Et la guerre du Yémen n'est pas un jeu vidéo. Il y a des hommes de chair et de sang qui luttent, qui souffrent, et qui, je suis convaincu, sont en train de vaincre. Le fait même que le Yémen n'ait pas cédé dans une guerre qui aurait dû se terminer en quelques mois de la vie de Mohammed Ben Salman prouve bien l'irréductibilité du Yémen. C'était un piège dans lequel il est tombé et dont il a beaucoup de difficultés à se dépêtrer, dans la mesure où pour lui, s'il recule, c'est le désaveu de toute la politique qu'il a menée, même avant d'être prince héritier. Donc je suis, de ce point de vue, optimiste par rapport à la résistance du Yémen, même si je suis un peu pessimiste sur l'ensemble de la politique arabe.
Merci pour vos explications. Merci également à Imadeddin Amrouni, donc Habib Tawa. Et Imadeddin Amrouni était avec nous pour ce débat du jour au sujet du Yémen et de l'agression de la coalition saoudienne contre ce pays du Golfe Persique. Merci également à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourriez également revoir toutes nos émissions et les informations du jour sur notre site web french.presstv.ir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres exégèse et récit attribué à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 26e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Tant que la douleur est supportable, faites preuve d'endurance. Cette maxime de la voix de l'éloquence du vénéré imam Ali béni soit-il souligne l'importance de l'endurance face aux épreuves de la vie. Le verset 4 de la sourate 90 du noble Coran dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte ». Une certaine réalité à laquelle nous sommes tous confrontés est que la vie est pleine de hauts et de bas. À peine avons-nous fini de relever un défi que nous nous retrouvons face à un autre. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons, Dieu nous dit clairement dans ce verset qu'il y aura toujours des difficultés dans la vie. Qu'il s'agisse de détresse émotionnelle, physique, psychologique ou spirituelle, nous avons été créés pour faire face à de telles épreuves, pour nous pousser à devenir des êtres humains plus forts et meilleurs. Le premier imam des chiites, le vénéré imam Ali béni soit-il, dit « Le monde est une maison entourée d'épreuves. Nous le constatons plus que jamais, alors que nous sommes confrontés à des défis sans précédent à l'échelle mondiale. La réalité de notre situation actuelle n'a pas besoin d'être triste ou déprimante. Au contraire, accepter et comprendre ce qu'on attend de nous peut nous aider à surmonter la détresse que nous pourrions ressentir. Difficulté est un défi et demande des efforts pour la surmonter. Mais elle peut être surmontée avec le bon état d'esprit et la bonne aide. Il y a certaines choses à garder à l'esprit afin que la difficulté soit plus acceptable. Premièrement, il faut comprendre que nous ne sommes pas les seuls à faire face à des défis ou à souffrir. Tout le monde est testé sous une forme ou une autre, que la réalisation du test soit là ou non. Savoir que nous ne sommes pas seuls nous apporte une certaine forme de réconfort. Deuxièmement, il faut savoir que Dieu a promis de ne pas nous charger de ce que nous ne pouvons pas gérer. Le verset 286 de la sourate 2 du noble Coran dit « Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Dieu connaît notre potentiel qui doit être mis en valeur. il ne nous mettrait pas donc dans une situation insurmontable. Parfois, nous ne sommes pas conscients du potentiel caché en nous et nous nous irritons des défis auxquels nous sommes confrontés. Et troisièmement, Dieu le Très-Haut est infiniment miséricordieux. Il ne nous laisserait pas sans nous fournir des outils nécessaires pour surmonter les difficultés de la vie. Les versets 8 à 10 de la sourate 90 du Noble Coran disent « Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies ?» En d'autres termes, le Seigneur nous a donné des outils physiques et spirituels pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Ne permettons pas nos luttes quotidiennes de nous abattre. Cherchons l'aide de Dieu le Très-Haut pour y faire face et cherchons les ressources que nous pourrions utiliser. Il est important de comprendre qu'une aide est disponible sous forme d'inspiration spirituelle, de soutien émotionnel de la part des amis et de la famille, et de l'aide professionnelle si nécessaire. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Une personne intelligente s'appuie sur la sagesse des autres pour ajouter à la sienne. Souvenons-nous de ces enseignements du Noble Coran pour accepter la réalité fondamentale de la lutte dans ce monde. Quand le livre saint dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte ». En effet, cet enseignement religieux nous donne un sentiment d'humilité et de force pour affronter la vie. Dans le sermon 192 de la Voix de l'éloquence, qui traite de la vanité de Satan et de la façon dont la maladie peut affecter tout le monde, l'imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, dit « Dieu le glorifié éprouve ses créatures par ces choses-là, dont elles ne connaissent pas la vraie nature, afin de les distinguer par le biais de telles épreuves, d'écarter d'elles l'orgueil et de les tenir à l'écart de la fierté et du narcissisme. » Dans ce sermon de la Voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il a également dit « Dieu le glorifié éprouve ses créatures avec diverses difficultés, les incite à l'adorer à travers leurs luttes, les teste dans des détresses variées, tout cela afin d'extirper l'orgueil de leur cœur, d'installer l'humilité dans leur esprit et de faire de tout cela une porte ouverte pour ses faveurs et un moyen facile pour son pardon. » Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.